Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour et bienvenue dans l'heure du documentaire qui, toute cette semaine, sera dévolue à des enquêtes. Expérience de mort imminente vendredi, combat des fralibes jeudi, enquête ethnographique mercredi, vie des juges d'instance mardi, et aujourd'hui, ce qui porte le nom de maltraitance gynécologique. Cette enquête récente de Mélanie Deschalottes et François Teste pour Sur les Docs a levé un tel tabou qu'il nous a paru essentiel de le rediffuser. Alertée par plusieurs articles dans la presse et sur Internet, la journaliste a repéré sur Twitter le hashtag « paye ton utérus », puis décidé de mener elle-même l'enquête par tous les moyens, y compris une petite annonce dans un de nos quotidiens en France. Très rapidement, les témoignages ont afflué et le mot « droit des femmes » a semblé totalement évanoui dans la centaine de témoignages recueillis sur des anomalies lors de consultations, d'accouchements ou d'opérations.
Hashtag paye ton utérus.
Quand on te refuse de te donner des médocs un peu plus fort car...
Tout le monde a des règles douloureuses.
Quand t'as 14 ans, première consultation, le gynéco te fait un toucher rectal sans te prévenir.
Quand le gynéco manipule la sonde vaginale comme si c'était un levier de vitesse de tracteur.
De ma gynéco à qui je demandais le stérilet.
Mais vous avez un boulot, un mec stable, pourquoi ne pas faire un enfant?
Hashtag paye ton utérus.
Maltraitance médicale en gynécologie. Par Mélanie Deschalottes et François Teste.
Ça va être compliqué de compter parce que j'arrive pas à retrouver à chaque fois, c'est pas forcément dans... Il y en a beaucoup sur les premiers examens gynécologiques en fait. Mmh. Et sur le manque d'informations et la surprise... 15... 16... Première fois chez le gynécologue, j'en ai au moins 3. 17... Donc là j'en ai une vingtaine sur 2 mois...
Combien de temps avec votre amie? 8 mois environ. Ce n'est pas assez. Après 2 ans seulement, j'accepte de mettre un stérilet à une femme n'ayant pas eu d'enfant. Et encore, il faut qu'elle ne supporte pas la pilule.
Ce qui est illégal en fait, hein, parce que les médecins n'ont pas le droit de refuser de mettre un stérilet normalement.
Si vous trouvez quelqu'un pour le mettre, tant mieux, mais il doit être inconscient. Ça, c'est ce que dit le gynécologue.
Non, ça, c'est très représentatif. Hein.
Tout au long de leur vie, les femmes livrent leur corps à des gynécologues pas toujours respectueux et parfois méprisants. En gynécologie et obstétrique, la maltraitance médicale est une réalité que les femmes taisent, car elle reste perçue comme inhérente à la condition féminine. Mais depuis quelque temps, dans la presse, sur Internet, les femmes se sont mises à parler. Paternalisme, sexisme, absence de consentement, mépris de la douleur. En février dernier, Internet révèle le scandale des touchers vaginaux sans consentement sur patientes endormies. L'affaire tombe mal. Déjà en novembre 2014, sur Twitter, des centaines de femmes avaient raconté leur expérience malheureuse, parfois traumatisante, chez un gynécologue. Le hashtag « paye ton utérus » a fait le tour des réseaux sociaux. En moins de 140 signes, elles ont dévoilé ces paroles ou ces gestes qui blessent durablement. Face à certains gynécologues moralisateurs, condescendants, voire maltraitants, les femmes payent très cher d'avoir un utérus.
Hashtag paye ton utérus.
Demandez un stérilet et entendre.
C'est pas l'Afrique ici, vous pouvez penser à votre pilule sinon vous couchez pas.
Quand j'ai acheté une pilule du lendemain, leçon de morale de la pharmacienne. Quand mon mec l'a acheté, elle l'a félicité.
Quand une gynéco te sort.
Lesbienne, mais vous êtes vierge alors.
Hashtag paye ton utérus.
Donc je m'appelle Marianne, j'ai 30 ans, je suis avocate. Et donc je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 17 ans et demi, 18 ans. J'avais un problème qui nécessitait d'aller voir une gynéco. Je savais pas trop ce que c'était à l'époque, donc j'étais un peu inquiète. Et j'avais pas encore de gynéco parce que jusqu'à alors j'avais été que dans des plannings familiaux ou des choses comme ça. Donc j'ai été dans le planning familial de ma ville. Et donc... J'ai eu une consultation avec une gynécologue. Et donc, à un moment, elle m'a demandé combien j'avais eu de partenaires différents. Et donc, j'ai dit 6. Et elle m'a regardée avec un air complètement effaré et ensuite totalement méprisant. Je me suis vraiment sentie espèce de traînée, quoi. Et c'était assez violent parce que je me suis sentie mal immédiatement et j'ai pensait que c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Et donc ensuite, je lui ai expliqué que je venais parce que j'avais un problème d'irritation, un mal-être qui faisait que j'avais besoin de voir un médecin. Et donc ensuite, on est passé à la partie l'examen à proprement parler. Donc elle m'a fait me déshabiller entièrement, ce qui, sur le coup, me paraissait pas bizarre, mais enfin maintenant, je sais qu'on n'est pas... on n'a pas besoin de faire ça de cette manière. Et je suis pas quelqu'un de pudique ni rien, mais après, la fois d'après où j'étais voir entre guillemets une vraie gynécologue dans un cabinet et qu'elle m'a demandé de me déshabiller et qu'elle a vu que je me déshabillais complètement, elle m'a dit mais non, mais gardez votre nanana. Enfin voilà. Et moi j'avais cru que c'était normal en fait. Donc ça, donc je me déshabille, ensuite je m'installe sur la table d'examen. Donc elle m'a expliqué ce que j'avais, à savoir une mycose vaginale, un truc, bon, voilà, c'était quelque chose de pas grave et de juste un petit peu ennuyeux. Et ensuite, elle a effectué sur moi un frottis, sans m'avoir demandé mon avis ou sans... je savais même pas exactement ce qu'elle avait fait, mais juste qu'elle m'a fait, elle m'a fait extrêmement mal. Moi, après, j'ai vécu ça comme une bonne petite française, c'est-à-dire comme un petit soldat, c'est-à-dire que voilà, on vous est chez médecin, on vous fait quelque chose qui vous fait mal et c'est normal. Et plus tard, justement, donc, en revoyant une gynéco quelques mois ou un an après pour une visite de contrôle, et elle a été vraiment très étonnée de découvrir dans mon dossier que j'avais eu un frottis alors que je venais pour un examen. Suite à une mycose vaginale, elle m'a dit « Normalement, on ne fait pas cet examen-là parce que ça fait trop mal. Quand la femme est déjà malade, on ne lui fait pas en plus un truc qui va lui faire mal. » Et c'est là que j'ai réalisé que c'était peut-être pas normal. Et moi, je l'ai vécu en me disant « Elle a pensé que j'étais juste une traînée. » Et elle s'est dit « Bah voilà, on va lui apprendre la vie. » Et voilà.
Pour vous donner la leçon.
Oui, c'est ça. Oui, oui, oui.
Martin Vinclair, vous êtes médecin, écrivain et vous êtes aussi connu pour votre engagement en éthique du soin. Comment se manifeste la maltraitance médicale en gynécologie ?
La maltraitance vis-à-vis des femmes se manifeste de la même manière que la maltraitance vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire qu'elle commence tout simplement par ce qu'on appelle le paternalisme. Ça consiste d'abord, pour le médecin, à penser qu'il est supérieur à la personne dont il s'occupe, qu'il lui fait une faveur en le recevant, et que c'est à lui de lui dire comment il va mener sa vie. Et le paternalisme ou la maltraitance se manifeste d'abord dans les paroles. Par exemple, ça peut être « Mais madame, pourquoi est-ce qu'à 35 ans, vous n'avez toujours pas d'enfant ?» Ce qui est une parole qui est absolument inacceptable, parce que c'est pas les oignons du médecin. C'est une parole violente de porter un jugement sur la vie de quelqu'un à un moment donné. Ça se passe aussi avec les femmes, par exemple, qui décident de ne pas avoir d'enfant du tout et qui veulent se faire stériliser, alors que c'est absolument légal en France. Il y a encore une majorité de médecins qui non seulement sont absolument opposés au fait que les femmes se fassent stériliser quand elles ont décidé de le faire, mais qui en plus leur mentent en leur disant « c'est interdit par la loi ». Ben non, la loi le permet. Ou encore « si jamais je vous le fais, je vais être poursuivi ». Ben non, on ne peut pas être poursuivi pour quelque chose qui est légal et qu'on vous a demandé. Donc la maltraitance se manifeste à la fois par la supériorité affichée, le mépris, l'humiliation, les paroles blessantes et les mensonges. C'est quelque chose qui est très fréquent dans le monde médical français parce que les médecins français sont formés pour penser qu'ils font partie d'une caste, que ce sont des êtres supérieurs, que leurs valeurs morales sont supérieures aux valeurs morales des gens dont ils s'occupent. Et donc ça leur permet, ou ça semble leur donner l'autorisation de dire, encore une fois, aux gens, et en particulier aux femmes, « Madame, ce que vous faites n'est pas bien, ou ce que vous pensez n'est pas bien, ou ce que vous avez décidé n'est pas bien. »
Donc vous voulez que je lise celui-ci ?
Oui.
D'accord. Donc consentement du mari, oui. De la patiente, non. Pour mon premier enfant, j'ai choisi d'accoucher dans une maternité qui, en l'absence de tout problème médical, permet aux femmes d'accoucher le plus naturellement possible. Mon suivi de grossesse par une sage-femme très à l'écoute se passe très bien. Arrive la visite obligatoire au 9e mois avec l'anesthésiste. Au début de l'entretien, il balaye en quelques mots catégoriques et blessants l'idée du naturel dans l'accouchement, soit mes convictions et celles de sa maternité. Point de salut pour une parturiente, hormis branchée et péridurale, elle met le mot entre guillemets. Ensuite, il m'examine, il me fait ouvrir la bouche, plus grand, encore plus grand. J'ai mal, je ne peux vraiment pas plus, et le lui signale. Il me dit que j'ai la mâchoire étroite, puis se tournant vers mon mari, lui demande d'un air entendu si ça ne le gêne pas. C'est là où j'ai véritablement décidé de me passer de ses services le jour J.
Anne-Charlotte Husson, vous venez de nous lire un des témoignages du Tumblr « Je n'ai pas consenti ». Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Tumblr ?
Alors, j'ai lancé ce Tumblr en fait en février 2015, suite à la lettre ouverte écrite par trois femmes, donc Béatrice Kammerer, Marie-Hélène Lahaye et puis Clara Debord, sur la question du consentement dans la formation médicale des médecins. Et j'ai trouvé que cette façon de parler du problème par l'angle du consentement était particulièrement pertinente et permettait de comprendre énormément de problèmes dans la relation médicale. Et j'ai donc suggéré à Béatrice Kammerer d'ouvrir un Tumblr pour récolter des témoignages sur cette question, que j'ai donc ouvert mi-février 2015. Et j'ai tout de suite en fait reçu énormément de témoignages, dont la majorité porte sur la gynécologie et l'obstétrique. Il y a deux sujets qui reviennent énormément. Il y a plusieurs témoignages qui portent sur le premier rendez-vous chez un gynécologue ou une gynécologue et le traumatisme que ça peut représenter pour donc généralement une adolescente qui n'est pas prévenue de ce qui va se passer et qui se trouve confrontée non seulement à un manque d'informations, mais à une froideur et à des examens qui peuvent être douloureux. Et plusieurs personnes du coup témoignent là-dessus et parlent de traumatisme, de honte, d'humiliation, etc. Le sujet qui revient énormément en gynécologie obstétrique, c'est la grossesse et surtout l'accouchement. Il y a beaucoup d'accouchements qui parlent de boucherie, d'accouchement sanglant, d'accouchement volé, enfin vraiment des mots très forts de femmes qui, on le sent, des années après ne se sont toujours pas remises de cette expérience-là. Et notamment, parmi les témoignages sur l'accouchement, beaucoup qui portent sur l'épisiotomie. Des épisiotomies non consenties et qui ont été très très mal vécues par la personne.
Je suis donc Clara Debord, je suis directrice d'hôpital, j'ai travaillé dans plusieurs endroits dans la santé, notamment en psychiatrie ou en hôpital universitaire, et je me suis intéressée très tôt aux questions de droits des patients et à la bientraitance ou à la maltraitance à l'hôpital, et j'ai notamment été chargée de conduire la mission bientraitance à l'hôpital pour Roselyne Bachelot lorsqu'elle était ministre de la Santé.
Alors, peut-on dire qu'en gynécologie, il y a beaucoup de maltraitance ?
Alors, je dirais que déjà, dans la santé, les femmes sont beaucoup plus hospitalisées que les hommes, par exemple. Hein, on ne le sait pas trop, mais il y a en gros 7 patients sur 10 à l'hôpital sont des femmes. Donc, les femmes sont déjà plus soumises que les hommes à être en situation d'être malade et hospitalisée et donc dans une relation un peu de vulnérabilité parce qu'elles accouchent, parce qu'elles ont des problèmes gynécologiques par exemple. Ensuite, je ne pense pas que les gynécologues soient plus maltraitants que les orthopédistes, sauf qu'on ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes organes et que ces organes n'ont pas le même poids symbolique. Et là, il y a aussi un débat de fond qui est intéressant, de est-ce que le bon soin, c'est de banaliser la sphère gynécologique et de considérer que c'est un organe comme un autre? Ou est-ce qu'il faut prendre en compte, et je pense que c'est cela qu'il faut faire, la particularité de ces organes-là et la sphère intime de ces organes-là, qui doit donc justifier un tact d'autant plus important. Et peut-être que cette spécificité n'est pas complètement comprise, apprise, ou qu'elle se perd, je ne sais pas, au fur et à mesure du temps. Et je pense que le corps de la femme, au moment où elle subit un acte gynécologique, n'est pas tout à fait dans la même situation que le corps d'une personne qui subit qui a un lumbago et qui se fait opérer.
Martin Vinclair, vous écrivez dans un de vos articles que beaucoup de gynécologues français sont maltraitants. Comment l'expliquez-vous ?
Ils sont maltraitants parce qu'on leur a appris à faire comme ça. Alors le problème, c'est que en médecine, on n'apprend pas le respect et à se comporter de manière respectueuse. On apprend à faire, on apprend à imposer des gestes, on apprend à présumer que si le patient rentre à l'hôpital, par exemple, il autorise absolument tout ce qu'on va lui faire. Ben non, on doit s'assurer que le patient est consentant. On doit s'assurer que le patient ne souffre pas. On doit s'assurer que le patient n'a pas peur. On doit s'assurer qu'il a bien compris. Et la première maltraitance consiste à ne pas s'assurer de tout ça.
Hashtag paye ton utérus.
Des règles douloureuses, mais arrêtez de faire votre chochotte, vous pouvez encaisser un petit désagrément.
Quand ton gynéco te reproche d'avoir une anatomie d'enfant de 6 ans parce qu'il ne sait pas faire un examen correctement.
Quand tu expliques que la pilule te rend dépressive et tue ta libido et qu'on te répond que...
La libido, c'est un luxe.
Hashtag paye ton utérus.
Jean-Marty, vous êtes président du SYNGOF, syndicat des gynécologues et obstétriciens de France. Depuis quelques années, de nombreuses patientes, mais aussi des médecins, dénoncent des violences gynécologiques et obstétricales lors des consultations, des chirurgies ou des accouchements.
La maltraitance vis-à-vis des femmes, pour moi, je tombe des nues. Pour moi, c'est du domaine soit du fantasme, soit effectivement des faits divers, parce qu'il y en a un ou deux qui ont violé, ce qui est l'horreur, mais qui existe dans tous les domaines. Enfin. Mais sinon, la profession ressent avant tout qu'elle a accompagné l'évolution de la société, qui a permis aux femmes de se libérer vis-à-vis de toutes les contraintes, à la fois de la procréation, de la sexualité, et vraiment la maltraitance, et puis du plus profond de moi-même, quoi. C'est pas un truc, on n'a rien à cacher, on a le sentiment que ça ne nous concerne pas, quoi.
Quand on parle de maltraitance, ce qui ressort dans la presse et sur Internet, c'est tout un ensemble de propos, de gestes. Donc alors, il y a des propos blessants et sexistes dont se plaignent les femmes. Il y a aussi une non-prise en compte de la douleur, une absence d'information, de consentement aussi de la part du patient.
L'accouchement, naturellement, c'est quelque chose qui est horriblement douloureux et dont nous faisons en sorte de le réduire. Mais il y a dans l'esprit de la société aujourd'hui une sorte de droit à la disparition de la douleur. Tout simplement, techniquement, il n'est pas possible dans la sécurité de supprimer la totalité des douleurs. Vous avez des femmes qui trouvent, par exemple, que le toucher vaginal est quelque chose qui est affreusement douloureux. D'accord ? Pour la plupart, ce n'est pas le cas. Et donc, ça dépend davantage d'une appréciation individuelle de cet examen, qui n'est pas agréable en soi, mais entre le fait d'être quelque chose d'abominable, comme le décrivent certaines, et le fait d'être quelque chose de banal, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre. Mais la plupart des femmes, je vous assure, ne posent pas de problème par rapport à ça, parce qu'elles comprennent que c'est un passage obligé pour avoir la sécurité qu'elles nous demandent pour arriver à vivre leur vie de femme de façon qui est normale.
Par exemple, l'examen gynécologique systématique chez les gynécologues,
Martin Winkler,
n'a rien d'obligatoire. Non seulement il n'a rien d'obligatoire, mais en plus, on pense qu'il sert à rien, qu'il empêche certaines femmes de consulter parce qu'elles sont sûres qu'elles vont être examinées, elles en ont pas envie. Alors que 9 fois sur 10, une femme qui est en bonne santé, 99 fois sur 100, on n'a pas besoin de lui faire un examen gynécologique. Elle n'a pas de symptômes. On va rien trouver de toute façon. On va juste l'embêter.
Alors pourquoi les gynécologues veulent-ils absolument examiner les femmes à partir du moment où elles consultent ?
D'abord parce qu'ils sont éduqués dans une optique du faire. Ils n'ont pas appris qu'on peut faire beaucoup en écoutant et en bavardant. La plupart des médecins pensent que leur métier de médecin se définit avant tout par les gestes qu'ils font. Donc ça va être l'examen gynécologique, l'échographie, que sais-je. Or c'est pas vrai. Le métier de médecin, il se définit d'abord par une rencontre, un entretien, une discussion, une mise à plat des questions pour essayer de voir s'il y a un problème, parce que des fois il n'y a pas de problème. Et puis ensuite on dit, voilà les moyens qu'on va se donner. Alors les moyens, ça peut être un examen clinique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça peut être une échographie, voilà ce que nous en attendons. Est-ce que vous êtes d'accord ? Etc. C'est une négociation. Le médecin est au service du patient. La plupart des médecins français ne sont pas éduqués pour être au service du patient. Ils sont éduqués pour penser que c'est à eux de décider ce que le patient doit faire.
Au sein de la Corporation des gynécologues, vous pointez d'abord le problème d'une idéologie sexiste.
L'idéologie sexiste, elle découle, si vous voulez, du paternalisme que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où vous décidez que vous êtes supérieur aux autres, et où pendant très longtemps, les médecins ont été en majorité des hommes, eh ben, c'était une idéologie, c'était deux idéologies qui se croisaient, on était paternistes et sexistes. Mais le paternalisme, il peut très bien affecter une femme médecin. Et ça devient une idéologie sexiste parce que si elle considère que son point de vue de médecin est supérieur au point de vue de la femme en tant que femme, c'est sexiste.
Hashtag paye ton utérus.
Je consulte un gynécologue pour une mycose, j'indique que je suis lesbienne, réponse du gynéco.
Cela donne des maladies, vous avez une mycose à cause de ça. Mais ne vous inquiétez pas, l'homosexualité, ça vous passera.
À la visite post-accouchement.
Vous étiez plus jolie la dernière fois que je vous ai vue. Vous savez où est votre point G? Je peux vous aider à le trouver?
Non merci, lamentablement véridique.
Hashtag paye ton utérus.
Bonjour, je suis le docteur Elisabeth Paganelli. Je suis secrétaire générale du Saint-Gov et je suis gynéco-médicale à Tours. Entre les dames qui me disent « je viens pour un examen gynéco et un frottis » et qui finalement sont le jour de leurs règles et qu'elles m'en mettent partout, alors moi j'ai envie de leur dire « excusez-moi, mais vous pourriez peut-être me dire quelles sont les règles parce que là vous en mettez partout et la suivante elle va avoir... » Vous voyez, il y a du non-respect dans les deux sens, en fait. Moi, j'ai pas l'impression que si la dame, elle veut pas l'examen gynéco, je lui ferai pas. Par contre, c'est vrai que si la dame, elle vient pour demander une pose de stérilet et qu'elle refuse l'examen gynécologique, je suis désolée, je ne lui ferai pas la pose de stérilet, vous voyez. Parce que maintenant, les femmes, elles demandent tout ce qu'elles veulent aussi, c'est marrant. Elles disent, moi, je veux pas du tout de frottis parce que ça va me faire mal. Et d'un autre côté, elles veulent aussi qu'on leur pose un stérilet à 18 ans. En ce moment, la pilule, c'est des hormones, donc il faut leur poser des contraceptifs naturels. On leur dit, la seule contraception naturelle, c'est le stérilet au cuivre. Donc, tout d'un coup, elles sont assez demandeuses. Alors que moi, je pense que leur poser un stérilet, même si je l'ai posé chez une jeune fille de 18 ans, parfois, elles n'ont jamais eu d'examen gynécologique et elles me demandent une pose de stérilet. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est un petit peu ambigu, parfois.
La pose du stérilet, sur les nullipares, la France a été rappelée à l'ordre là-dessus, si j'ai bien compris.
Mais pourquoi vous avez ça rappelé à l'ordre? Pendant très longtemps, on nous a dit, attention, il y a des femmes, elles font... Quand vous posez un stérilet, vous savez que quand même, dans le premier mois de la pose de stérilet, que la dame, elle est 48 ans, que la dame, elle est 18 ans, vous avez une augmentation du risque d'infection dans le premier mois. Or, quand vous êtes gynécologue, vous avez quand même vu des femmes avoir des vraies péritonites avec un stérilet. En ayant vu ça dans mes études, puis après dans mes patientes, on peut se dire, moi, je ne souhaite pas forcément mettre des stérilets à toutes les patientes. Mais moi, j'ai toujours mis des stérilets à des nullipares. Par contre, on ne nous conseillait pas trop d'en mettre. Donc, en fait, on n'en posait qu'exceptionnellement. Maintenant, il y a une recommandation. On suit les recommandations. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut. La recommandation nous dit... Vous pouvez poser des stérilets à des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, et ça, quel que soit leur âge. Donc, on applique la recommandation et on pose des stérilets.
Marianne, dans quelle mesure cette première expérience a-t-elle marqué votre parcours en gynécologie ?
Tout ce que j'ai pu voir... des médecins, et je grandis dans une famille de médecins, donc je sais un peu de quoi je parle. Cet esprit carabin, moi j'allais manger au réfectoire avec mon papa quand j'étais petite. Vous savez, ces peintures obscènes, les fresques, etc. En tant que petite fille, ça me traumatisait. c'est choquant, quoi. On voit pas ça ailleurs, en fait. Et en grandissant, et en m'internationalisant, c'est-à-dire que en vivant à l'étranger, en voyageant, en ayant un mari qui n'est pas français, en parlant avec des gens qui ne sont pas français, en lisant énormément, je me suis rendu compte que ce que je pensais être la normale n'était pas forcément normal. Et quand j'ai le plus peut-être besoin d'un contact avec un gynécologue, c'est-à-dire pendant ma grossesse et pour mon accouchement, j'ai refusé ce système. Et donc j'ai décidé d'accoucher à la maison avec une sage-femme qui est la personne qui m'a suivie pendant toute ma grossesse. Et c'est elle qui m'a accouchée. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et en cas d'accouchement pathologique, ce qui peut toujours arriver, j'avais préparé une liste de soins que je refusais. Et en plus, je suis avocate. Je peux vous dire que si un médecin me faisait un truc que j'avais refusé, mais je le poursuivais en justice. Parce qu'on ne devrait pas pouvoir faire ces choses-là.
Quel type d'acte vous aviez refusé ?
Typiquement, je ne voulais pas d'épisiotomie parce que j'estime qu'en France, l'épisiotomie est un acte qui est trop fait. Et d'ailleurs, c'est drôle, quand j'ai accouché et qu'on a appelé mes parents pour leur dire que j'avais accouché. Donc j'ai eu mon papa au téléphone au bout d'un moment et il me dit « Bon, l'avantage, c'est que t'as pas eu d'épisio. Hein. » Enfin bon, c'est pas bien grave. J'ai rien dit, voilà, parce que c'était pas le propos. On était dans un moment, voilà, de bonheur et de... Mais je me suis dit, mais comment ça, c'est pas grave, c'est... Il y a plein de femmes, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a plein de femmes qui souffrent de ces épisiotomies pendant des mois, voire des années, et ça les impacte dans leur vie sexuelle, avec leur mari, enfin, ou leur partenaire. Et je vois pas comment on peut dire que c'est pas grave. Et c'est un truc que je dis souvent, mais je reste persuadée que si c'était les hommes qu'on coupait à cet endroit, on en parlerait un petit peu plus et ça ne se ferait pas.
Très longtemps, l'épisiotomie nous a été conseillée.
Jean Marty.
Parce qu'elle prévenait des complications graves et on pensait, à tort, que faire une épisiotomie, c'était de faire une incision qui était considérée comme propre, qui pouvait être réparée parfaitement. Et au total, on pouvait ramener les patientes dans une situation où pratiquement, elles ne voyaient pas de différence avant et après. Et puis, on s'est rendu compte à la pratique que ce n'est pas vrai. Voilà. Et qu'au total, les femmes ne sont certainement pas mieux après une épisiotomie que sans épisiotomie, à partir du moment où on est arrivé à éviter les déchirures de l'anus, où la femme devient incontinente anale. Et aujourd'hui, on ne fait pas d'épisiotomie à partir du moment où il n'y a pas cette protection à rechercher, où on ne craint pas cette déchirure extrêmement grave et qui serait difficile à réparer. Voilà. Et d'ailleurs, dans les statistiques, on a vu fondre, après ces recommandations du collège, le nombre des épisiotomies.
Je voudrais parler avec vous de ce phénomène du point du mari. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'on appelle le point du mari, si cette pratique est avérée, et ce que vous en pensez, vous, en tant que médecin, Martin Winkler?
Alors, le point du mari, ça consiste après un accouchement au cours duquel on a pratiqué une épisiotomie, c'est-à-dire une incision de la vulve pour permettre la sortie de la tête du bébé plus facilement. Ça consiste à recoudre cette incision, mais à la recoudre un tout petit peu plus serrée, parce qu'évidemment le vagin est un peu dilaté après la dilatation de l'accouchement, et que, entre guillemets, c'est moins agréable pour le mari. Donc on resserre pour que le mari ait l'impression d'avoir un vagin neuf, que sa femme a un vagin neuf.
Qu'est-ce que c'est censé faire ?
Bah, c'est censé améliorer les sensations de l'homme quand il a des rapports sexuels avec sa femme.
De l'homme ?
De l'homme, bien sûr, pas de la femme. Alors la femme, c'est complètement secondaire dans l'esprit des gens qui font ça. C'est complètement... délirant, cette idée. Est-ce que c'est avéré? Oui. Toutes les sages-femmes d'il y a 25 ans connaissaient cette méthode. Il y en avait qui la faisaient, il y en avait qui la faisaient pas, il y avait des gynécologues qui la faisaient, etc. Moi, j'ai entendu des tas de patientes me raconter ça.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, on pratique le point du mari?
Alors, il est probable qu'on le pratique encore aujourd'hui, parce que sur les forums de soignants auxquels j'ai affaire, moi, j'ai des jeunes sages-femmes qui me disent « je l'ai vu faire ». Voilà encore une fois une pratique inacceptable sur le plan éthique.
Ceci nous a autant choqués que cela a choqué la population féminine.
Jean Marty, président du syndicat des gynécologues et obstétriciens de France.
Que l'on puisse penser que la confiance que les femmes portent dans les médecins soit à ce point trahie par les médecins, je veux dire, c'était pour nous une horreur. Et je pense que s'il y a eu un problème de communication, c'est que c'était horreur contre horreur. Voilà. Je veux dire que... Mais c'est absolument pour nous, c'est, mis à part la perversion, dont on ne sait jamais si elle n'existe pas chez quelqu'un, c'était pour nous quelque chose qui était strictement impensable. Nous, nous ne sommes pas là pour nous occuper des maris. On est là pour aider des femmes qui nous font confiance. Et c'est pour nous un tel honneur d'avoir des femmes qui nous font confiance, que notre objectif, c'est leur permettre de rétablir une situation qui leur apporte une vie la plus normale possible.
Hashtag paye ton utérus.
Quand je mentionne ma copine, la gynéco me dit
« Je vais vous prescrire la pilule pour quand vous aurez une vraie relation. »
Mais je peux pas vous pousser de stériliser, c'est pour les personnes en couple, fidèles et avec un projet de vie commun.
Quand ton gynéco te sort...
Vu la taille de vos seins, petite, ils vont faire la gueule les gens de la mamou.
Quand tu sursautes à cause d'un geste invasif, non annoncé, qu'on te répond.
Vous n'êtes pas là pour prendre du plaisir.
Quand ton médecin veut pas que tu arrêtes la pilule parce que les préservatifs c'est moins kiffant pour ton mec.
Hashtag paye ton utérus.
Quand il s'agit des droits des malades, la loi Kouchner de 2002 est très claire. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable.
Marie-Hélène Lahaye, vous êtes avec Clara Debord à l'origine d'une pétition contre les touchés vaginaux sur patientes endormies.
Alors en quelques mots, donc c'était un homme dont la femme a subi des touchés vaginaux de façon non consentie et qui a voulu chercher des témoignages sur Internet. Donc il a commencé à taper des mots-clés sur Internet et a tombé de façon un peu par hasard sur des documents d'une université de Lyon sur... des documents de stage pour les futurs gynécologues qui énuméraient toutes les compétences que les futurs gynécologues devaient avoir fait, et dont notamment une ligne en toutes lettres des touchés vaginaux sur patientes endormies en bloc opératoire. Et moi, à ce moment-là, je m'attendais naïvement à ce que les médecins réagissent en disant « mais c'est scandaleux, une enquête doit être menée, si c'est effectivement ça, ça doit être sanctionné ». Et en fait, non. Ils n'ont pas du tout réagi comme ça. On a d'abord eu la doyenne de l'Université de Lyon qui a dit « Oh, mais si on demande l'avis aux patientes, elles vont dire non, donc on ne leur demande pas leur avis ». Et puis arrive même le président du Collège des gynécologues français qui sort dans la presse en disant « Mais enfin, on ne va quand même pas demander aux femmes leur consentement, ce serait la pudibonderie ». Et c'est vraiment ça qui a déclenché cette idée du rappel à la loi Kouchner sur ce consentement libre et éclairé que manifestement les médecins ne connaissent pas. Ils n'appliquent pas, ils ne veulent pas appliquer, ils ne voient juste pas le problème.
Alors vous dites par rapport à cette affaire, et c'est ce qui vous a le plus interpellé dans cette polémique, ce n'est pas l'ignorance du droit de la part des gynécologues, mais leur insistance à affirmer que les touchés vaginaux n'avaient rien de sexuel.
Mais déjà, dans tous ces débats, c'est toujours l'argument, donc tous ces arguments, c'est de dire « mais enfin, c'est pas un viol ». Déjà, on n'y prend pas de plaisir, comme si le plaisir était constitutif du viol. Donc un violeur pourrait dire « oui, j'ai pas pris plaisir, donc c'est pas un viol ». Enfin, c'était déjà assez aberrant. Et surtout, l'argument qui revenait toujours, c'était de dire « mais ça n'a rien de sexuel ». Et ce que je démontre, c'est que peut-être que dans l'esprit des médecins, admettons, ça n'a rien de sexuel, mais quand c'est la femme qui a subi le toucher vaginal, c'est peut-être pas nécessairement la même chose. Donc c'est de nouveau prendre le point de vue du médecin sur la femme. Et puis sur Twitter, je me suis même amusée en disant, puisque ça n'a rien de sexuel et que c'est tout à fait anodin, pourquoi les étudiants en gynécologie ne s'entraînent pas entre eux? Et bien là, il n'y a pas eu beaucoup de succès sur ma suggestion. Au contraire, il y a toute une série d'étudiants qui vont dire, mais non, ça ne sert à rien, non. Enfin, ils ont trouvé plein d'excuses pour expliquer à quel point, non, surtout pas entre étudiants. Donc c'est toujours de nouveau le médecin par rapport aux femmes et pas entre eux.
Autrefois, on n'avait même pas à dire les choses aux gens.
Jean Marty.
Il fallait expliquer aux gens quelque chose qui soit pour eux, quelque chose qui soit simplement rassurant. Et par exemple, mes patrons disaient, je prends l'exemple du cancer, ne jamais prononcer le mot. D'accord ? Alors qu'aujourd'hui, on en est à la vérité sur tous les domaines par rapport à cette pathologie particulière. Donc il faut comprendre qu'il y a eu une évolution et qu'effectivement, dans un premier temps, il n'y avait aucune raison d'aller expliquer à une femme qui dormait qu'on en profitait pour apprendre aux étudiants à faire des examens, alors que la personne dormait pour une pathologie. C'était l'occasion de montrer aux jeunes en formation qu'est-ce qu'était cette pathologie. Et c'était pour nous absolument naturel. Aujourd'hui, on en est dans le fait de s'offusquer, qui est une pratique qui était absolument naturelle il y a 40 ans. Voilà. Il faut comprendre que c'est une évolution de la société. Mais il faut aussi aujourd'hui, malgré tout, expliquer à la population qui n'a pas encore compris que le médecin à qui elle souhaite se confier ne peut être digne de cette confiance qu'à partir du moment où il a une expérience du toucher vaginal. Et quelqu'un qui est très maladroit, eh bien, c'est mieux de faire un premier toucher vaginal chez quelqu'un qui dort et on va lui montrer qu'est-ce que tu sens bien de ça, c'est comme ça, qu'aller le faire chez quelqu'un qui est tout à fait réveillé D'accord ? Et à qui on va montrer que c'est en haut, que c'est en bas ? Je veux dire que si je vous faisais subir ça maintenant sans anesthésie, vous ne l'accepteriez pas.
Parce que les femmes s'arrêtent surtout sur la notion de consentement. Et le consentement, c'est prendre aussi le risque que la patiente dise non.
Bien sûr, nous sommes aujourd'hui tout à fait d'accord pour qu'il y ait ce consentement. Et avec d'ailleurs cette conviction, c'est que ce consentement, nous l'obtenons extrêmement facilement.
Des amis à moi m'ont dit, sur la question des touchés vaginaux au bloc opératoire, mais enfin, pourquoi ça te gêne ? La plupart des gynécologues sont des femmes.
Clara Debord, directrice d'hôpital, spécialiste des professions de santé.
Ça ne devrait pas te gêner. Alors, ce à quoi je réponds que d'une part, c'est faire fi de l'homosexualité, c'est quand même un comble. Et puis, ce n'est pas le sexe des doigts du gynécologue qui m'intéresse. Ça n'a rien à voir avec le caractère sexué des doigts qui me pénètrent sans mon consentement. C'est le fait que c'est une zone intime, c'est que le fait que la loi me permet de dire si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord et que je n'accepte pas que soit un homme, soit une femme passe outre ce consentement qu'on est censé recueillir auprès de moi.
Elisabeth Paganelli, gynécologue.
Après, on fera comme le reste. Si vous voulez qu'on fasse une fiche d'information, on leur donnera une fiche d'information par la secrétaire. Je leur dirai, est-ce que vous acceptez que je fais le toucher vaginal ? Est-ce que vous acceptez que je prends la tension ? Est-ce que vous acceptez, madame, que je vous pèse ? Parce que moi, j'ai des obèses, elles ne veulent pas être pesées. Mais c'est leur choix. Mais par contre, si c'est un début de grossesse, il faut bien que je les pèse. Ça fait partie des recommandations de peser les gens. Maintenant, il y a des dames, elles ne veulent plus être pesées. Bon, ben moi, je veux bien. Mais alors, dans ce cas, elles cocheront ce qu'elles veulent bien. Et dans ce cas, ça sera légal. Parce que ce que je n'aurais pas fait, c'est que la dame aura refusé. Et à ce moment-là, je serai protégée. Parce que ne pas faire un toucher vaginal. Si la dame, elle a un sarcome avec une grosse tumeur qui lui arrive à l'ombilic, elle a 18 ans, et qu'elle a le cancer de l'utérus, qu'est-ce qu'on me dira ? J'ai vu la patiente, elle est venue dans mon cabinet. Vous lui avez fait régler une consultation et vous ne l'avez pas examinée. Donc on nous reproche toujours de ne pas faire quand il y a un problème. Alors, nous, donnez-moi où est le raisonnable.
Vous, ça vous choque, cette demande de consentement pour chaque acte que vous allez poser ?
Ça va être long, hein ? Ça va être long.
Mais donc, le consentement, les femmes parlent du sexe.
Est-ce que quand les dames, elles vont à l'université, qu'elles ont la chance d'aller dans un hôpital, un CHU qui est à côté de chez moi, elles savent bien que c'est CHU, ça veut dire universitaire. Elles sont contentes d'avoir des internes, elles sont contentes d'avoir... Donc, évidemment qu'il y aura des internes qui vont passer. Dans ce cas, il ne faut pas aller dans un CHU, il faut aller dans une clinique privée si vous ne voulez pas du tout avoir d'étudiants.
Pour moi, le CHU, ça devrait être la meilleure médecine. Pas la pire.
Clara Debord.
Centre hospitalier universitaire. La meilleure médecine. La médecine qu'on enseigne aux médecins de demain. Comment peut-on justifier que la meilleure médecine, la médecine qu'on enseigne demain, soit une médecine qui fasse fi de la loi ? La loi ne permet absolument pas de ne pas demander l'accord du patient dès lors qu'il est en CHU. Absolument pas. Au contraire, la loi prévoit un consentement particulier pour les actes réalisés à des fins pédagogiques.
Je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans et en 2007, j'ai fait une fausse couche à 8 semaines. Donc déjà, on est obligé de passer par les urgences, même si c'est pas forcément une urgence en tant que telle. Donc on attend des heures aux urgences. Et ensuite, on m'a fait aller dans le service de gynécologie où j'ai rencontré une interne d'abord, qui a été très gentille avec moi, qui s'appelle Marie d'ailleurs, je m'en souviens bien. Qui m'a expliqué comment ça pouvait se passer, que certes je pouvais attendre, que ça allait partir tout seul, mais ça pouvait mettre des mois, enfin bon. Donc après, elle m'a parlé d'une intervention, que ça serait bien, même si moi j'avais une lettre de ma gynécologue qui demandait un avortement par médicament. Mais elle m'a dit, oui, vous vous rendez compte, vous allez faire ça toute seule chez vous, ça peut durer pendant des jours, moi je vous conseille plutôt de venir chez nous, on va vous faire une opération, en fait une aspiration, comme un avortement. Ça va pas durer longtemps, vous allez voir, vous allez rien sentir, ça va bien se passer. Donc on m'a dit par contre, il faut se décider tout de suite parce qu'il faudrait qu'on vous prenne demain. Donc bon, j'en ai discuté un petit peu avec mon partenaire, on s'est mis d'accord, et puis là, donc j'ai quand même posé la question de l'anesthésie. Ils m'ont dit non, mais ça, c'est pas une question qu'il faut se poser, prenez pas l'anesthésie générale, parce que c'est trop lourd, ça sert à rien pour une intervention comme ça. Et moi, naïve comme j'étais et complètement désespérée, bah, je me suis rendue le lendemain matin à Jeun à 7h pour cette intervention. Donc déjà, au départ, ils m'avaient dit qu'ils me donneraient un calmant qu'ils ne m'ont jamais donné. Et du coup, ils m'ont mise dans le bloc. Et là, j'ai vu qu'il y avait donc la médecin-chef, que j'avais juste entreaperçue la veille, l'interne que j'avais vue et deux autres étudiants qui étaient présents aussi. On ne m'avait pas du tout posé la question. Peut-être que j'aurais donné mon consentement si on m'avait demandé. Mais en l'occurrence, j'ai été assez surprise parce que c'était pas... Enfin, on ne m'en avait pas parlé, quoi. Donc là, on m'installe, je demande le calmant, on me dit « Non, mais c'est trop tard, de toute façon, ça va bien se passer. » Et donc là, déjà, ils m'ont attachée, je ne savais pas non plus que ça faisait partie de l'intervention. Ils m'avaient dit « Apportez votre lecteur MP3 ou de la musique, mettez ça bien fort, comme ça, vous entendrez pas. » Sauf qu'une fois arrivé sur place, il se trouve que les médecins doivent aussi vous poser des questions, genre « Vous allez pas tomber dans les pommes ?» Donc on vous demande tout le temps de couper la musique, donc en gros, on peut pas écouter la musique. Donc je ne l'ai pas fait, et donc on m'a attachée, et là, donc la gynécologue en chef dit à cette Marie en question, « Allez Marie, videz-moi cet utérus ». Donc déjà, moi j'étais déjà très mal forcément, parce que dans cette situation-là, on est forcément mal, en plus on est attaché avec des personnes qu'on n'a jamais vues, ni d'Ève ni d'Adam. Là dans le fond, il y avait un interne homme donc qui tirait la gueule, quoi. Je pense qu'il était déçu de ne pas avoir été choisi pour cette leçon. Donc l'intervention, voilà, ils me font l'anesthésie, ils me félicitent parce que je suis docile par rapport aux autres femmes, parce que d'habitude, les femmes, on peut pas les toucher, dès qu'on les touche, en gros, elles couinent. Et donc j'ai tout entendu, le bruit des machines, les indications, un peu à droite, un peu à gauche, enfin tout, quoi. Et à la fin, ils sont même allés jusqu'à mettre l'embryon, puisque c'était qu'un embryon à ce niveau-là, dans la machine à côté de ma tête, quoi. Donc j'ai tout vu, et puis ils sont partis. Et ils m'ont dit, en partant, vous inquiétez pas, vous remettrez vite. Et voilà, donc on m'a raccompagnée dans ma chambre, comme ça, en plein choc, quoi. Enfin, j'y croyais pas, j'avais l'impression... Dans ces moments-là, on peut rien dire, parce que ça semble tellement irréel qu'on puisse vous faire ça, qu'on n'a rien à dire, quoi. J'ai rien dit du tout. Puis finalement, ils m'ont laissé partir, comme ça. Sauf que suite à cette intervention, pardon, j'ai eu une infection qui s'est déclarée dans les jours suivants, en fait, de grosses douleurs au ventre, tout ça. Et ma gynécologue étant en vacances, je l'ai eue par téléphone, et elle m'a dit, ben, retournez-y, parce que c'est eux qui ont pratiqué l'intervention, donc c'est eux qui sont à même de voilà, quoi, voir ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je suis tombée sur le fameux interne qui n'avait pas eu le droit de s'exercer sur moi quand j'étais venue, quoi. Et lui m'a dit directement, au passage, en me faisant des réflexions sur mes seins, enfin des trucs comme ça, quoi, bref.
Quoi ?
Je sais pas, il me dit, mais ça va peut-être vous remonter le moral, mais je trouve que vous avez vraiment de jolis seins. Je fais, ben écoutez, pas du tout, enfin, c'était vraiment complètement inconvenu, mais bref. Et lui me dit, ben écoutez, il reste encore un petit truc, voilà, je le cite, il m'a exactement dit ça, il reste un truc. Donc moi, je vous fais une aspiration là maintenant, là, si vous voulez, on y va, et les 14h à 14h30, vous êtes au bloc. Donc, pour la première fois, je dis non. Donc, sa chef arrive, elle me dit, alors comme ça, on veut pas repasser sur le billard. Donc, je lui dis, ben non, je ne veux pas repasser sur le billard. Et je leur demande de me délivrer du Cytotec, en l'occurrence.
Cytotec ?
Donc, le Cytotec, c'est un médicament qui est utilisé pour les avortements médicamenteux. Ça expulse l'embryon, en fait. Et à ce moment-là, donc, l'autre, elle prend sa boîte, comme ça, de Cytotec, et elle me la jette dessus. Et elle me dit, bah vous savez quoi, peut-être que vous pourrez plus jamais avoir d'enfant, quoi. Et voilà. Donc voilà, et elle m'a dit aussi, avant que je parte, maintenant je sais que c'est totalement infondé, mais à l'époque j'y connaissais pas grand-chose en gynécologie, tout ça. Elle me dit, de toute façon, ça sert à rien de réessayer maintenant, parce que vous ovulerez pas, ce mois-ci. Alors je sais pas pourquoi. Et donc j'ai demandé aussi un arrêt de travail, parce que le Cytotec, comme toutes les femmes, je sais ce que c'est. Je sais que ce sont des douleurs, je sais que... Et ils ont refusé de me le donner. Donc je suis partie avec mon Cytotec, sans arrêt de travail. J'ai pris mon Cytotec le lendemain au travail, pendant 48 heures, j'ai eu des douleurs, enfin bref. J'ai pu me faire arrêter par un autre médecin, mais enfin moi, ma sensation, c'est que j'ai vraiment été punie, en fait, d'avoir été la méchante fille qui refusait son intervention, quoi. Donc la première personne avec qui j'en ai parlé, c'est à ma gynécologue, en fait, quand elle est rentrée de ses congés. Donc elle, Elle a fait une lettre à l'hôpital, mais qui est restée sans réponse. Et le fait est que je suis tombée enceinte, finalement, le mois d'après. Donc, comme quoi, c'était possible d'ovuler aussi. Et aujourd'hui, je sais que je serais incapable de me faire avorter par aspiration, même sous anesthésie générale. C'est un truc qui est clair avec mon compagnon. On utilise deux moyens de contraception parce que j'ai hyper peur de retomber enceinte, mais je ne suis pas capable de refaire ça. Vraiment.
La maltraitance ordinaire en gynécologie obstétrique, c'est une perte de chance. Parce que beaucoup de femmes ou beaucoup de jeunes filles ne vont pas ou pas assez souvent chez le gynécologue ou chez la sage-femme, parce qu'ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent aller chez la sage-femme, parce que y aller, et moi-même j'y vais à reculons, prendre rendez-vous pour aller se mettre à poil et écarter les jambes, c'est vraiment pas agréable. Les hommes n'imaginent pas ça.
Le problème de la maltraitance, c'est que si par exemple vous êtes enceinte, vous allez voir un gynécologue, c'est le seul gynécologue dans le secteur, vous allez craindre que votre grossesse ne soit pas bien suivie si vous vous défendez. Il y a un chantage, une menace qui est inhérente à la position de pouvoir que le médecin a en face de vous.
Les maladies que le gynécologue peut dépister sont pour beaucoup des maladies mortelles. Et je crois que ça participe de cette pression et du fait que nous n'osons pas nous écouter nous-mêmes quand nous ne sommes pas à l'aise avec le gynécologue et nous n'osons pas lui dire. Parce que potentiellement, le gynécologue est en train de nous sauver la vie. Et ce n'est pas anodin, ça n'est pas comme si on allait chez un médecin qui soigne que des maladies gênantes mais pas mortelles.
Jean-Marty, un de vos confrères, Martin Vinclair, écrit dans un de ses articles, je cite, « Dans un pays qui se dit démocratique, tout citoyen, médecin ou non, est en droit de critiquer le comportement inacceptable d'une profession réputée répondre aux besoins de la population. Pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que ce droit est censuré en France.
On connaît Vinclair, mais pour nous, on le connaît surtout comme romancier. Bon, c'est un médecin généraliste qui parle beaucoup de gynécologie. Mais enfin, je crois que la meilleure façon de bien parler de la gynécologie, c'est de passer les diplômes. Donc, dire qu'il a beaucoup d'autorité au sein de, vis-à-vis de tout un chacun, mais finalement, il est un peu entre les deux, quoi. Parce que il est ni gynécologue ni femme, et surtout, je crois qu'il a besoin de beaucoup s'exprimer.
À ce moment-là, j'y ferai
beaucoup plus attention. À vous d'ailleurs, vous le voyez. D'ailleurs, je ferai beaucoup d'attention à ce que vous me dites, et je pense que. Si vous voulez, nous, on est formés à tout entendre, à tout écouter. Je crois que notre activité, c'est d'expliquer les choses. Mais après, et puis vraiment, c'est la culture, le conseil de l'ordre, il veille vraiment, c'est qu'on ne fait rien que n'accepte la population. Voilà. On ne fait rien que la patiente qui se confie à nous ne veuille pas.
Clara Debord.
Je pense que la formation des médecins, c'est une formation entre pairs. C'est le principe de la formation médicale, c'est un compagnonnage. Ça a d'immenses avantages, mais ça a aussi quelques inconvénients. Et les inconvénients, c'est aussi le fait d'un relatif entre soi. Et peut-être que la formation des médecins n'est pas assez regardée par des personnes de la société civile, j'ai envie de dire, des philosophes, sociologues, peu importe. La formation médicale est encore beaucoup conçue comme une formation hyper technique, comme une formation un peu d'ingénieur, si vous voulez, et que donc seuls les techniciens, encore plus techniciens que vous, peuvent vous enseigner des choses. Et ce que je crois aussi, c'est que la loi sur les droits des malades de 2002, la charte du patient hospitalisé qui est sortie en 1995, me semble-t-il, on voit bien que le fait d'émettre des droits et même de les afficher dans les hôpitaux ne suffit pas. Et que tout le monde sait que dans la charte du patient hospitalisé, le recueil du consentement est indiqué. Mais en même temps, vous allez croiser un tas de personnes qui vont vous dire « dans un CHU, on n'a pas demandé l'accord pour que les internes viennent vous voir ». Donc il y a une incompréhension totale, une méconnaissance crasse de ce qu'emportent ces nouveaux droits dans la réalité de la pratique du médecin ou du professionnel de santé en général.
Fin février, accouchement traumatique, seul pendant des heures, puis avec 7 personnes qui arrivent d'un seul coup au son de « votre bébé va mourir », forceps, épisio, déchirure complète. Tout ça sans péridurale. Je passe 8 jours à la maternité, sans voir personne, sinon l'infirmière du matin qui me dit tous les matins « le psy va venir vous voir aujourd'hui ». Bien sûr, je ne vois personne. Je sors, je me reconstruis chez moi, avec mes proches, loin des soignants. 4 mois pour rapprivoiser mon intimité, pour reprendre une vie sexuelle. Et malgré le temps qui passe, une douleur à un endroit lors des rapports. Je retourne consulter à la maternité. La gynécologue me dit que la cicatrisation ne s'est pas faite tout à fait correctement et qu'il y a une bride qu'il faut enlever. Je ne suis pas sûre de vouloir, peur de la douleur, peur du changement dans cette région que j'ai eu tant de mal à réapprivoiser. Le gynécologue me rassure, ce sera sous anesthésie, je peux prendre rendez-vous avec le chirurgien pour parler avec lui de la nécessité de couper cette bride et de comment faire. Fin octobre, exactement 9 mois après mon accouchement, j'ai rendez-vous avec un chirurgien de la maternité, ce que je pensais être une consultation. Il me demande de me déshabiller et de me mettre les fers en l'air. Je me rappelle d'un examen médical désagréable, limite douloureux, sans un mot du praticien sur ce qu'il fait. Vu mon historique, je ne me sens pas vraiment en confiance et le surveille du coin de l'œil. Aussi, quand je vois le chirurgien prendre un objet sur la petite table à côté de lui, je lui demande « Vous prenez quoi? C'est pour faire quoi ?»« Ne vous inquiétez pas, madame, c'est juste un coton pour un prélèvement. » Je me rallonge, douleur vive, très vive. Je me rassais, vois du sang couler. Je hurle « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Eh bien, j'ai coupé, madame, vous veniez pour une bride, c'est bien ce que vous vouliez, non ?» Il expliquera plus tard qu'il m'a menti pour mon bien. En ne m'attendant pas au geste, je n'ai pas stressé.
Ces femmes qui témoignent, est-ce qu'elles ont conscience d'être victimes ?
Pour beaucoup donc de ces personnes qui témoignent, ce qui s'est passé relève du traumatisme. Clairement, pour beaucoup de témoignages relevant de la gynécologie. Et pour autant, ce n'est pas forcément facile de mettre des mots sur ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi ça leur est arrivé. Et donc je pense que ce terme de consentement, c'est une façon qui, déjà pour les femmes, fait écho à beaucoup de choses et qui peut permettre de comprendre, de commencer à mettre des mots sur ce qui s'est passé, ce qui est quand même la première étape pour arriver à dépasser ça. C'est ça aussi le but du Tumblr, c'est montrer que ce n'est pas une série de problèmes isolés, sans lien entre eux, c'est qu'il s'agit d'un problème systématique et qu'il faut donc régler au niveau du système et non pas au niveau de la relation entre deux individus, entre un médecin particulier et une patiente. Et je pense aussi que mettre en avant cette dimension systématique, c'est aussi une manière d'aider les femmes et de leur montrer... De leur donner les moyens de comprendre ce qui se passe et puis éventuellement de réagir si elles-mêmes se retrouvent dans cette situation-là pour pas qu'elles se disent « ça n'arrive qu'à moi, c'est quelque chose de honteux, je ne peux pas en parler ».
Comment on peut obliger les gynécos à changer ? On peut sélectionner les gynécos qui, eux, font leur travail. Il y a des listes de médecins, par exemple. Maintenant, les patients sur l'internet font des listes de médecins qui sont des médecins qui n'ont pas de préjugés, par exemple, d'orientation sexuelle, c'est-à-dire qu'ils sont accueillants avec les personnes homosexuelles. Ils ont des listes de médecins qui font des gestes gynécologiques sans être agressifs, qui se comportent de manière correcte, enfin éthique. Il y a de nombreux moyens de changer les choses. Ça prend du temps, mais ça ne peut venir que parce que le public s'organise et fait lui-même le tri.
C'était Maltraitance médicale en gynécologie avec Anne-Charlotte Husson, Martin Vinclair, Clara Debord, Jean Marty, Elisabeth Paganelli, Marie-Hélène Laher. Merci à Marianne et Sophie pour leurs témoignages. Merci à Nat Maz, Rachel, Marine, Natsassi et Jacine de nous avoir prêté leur voix. Attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Productrice coordinatrice Irène Omelianenko. Un documentaire de Mélanie Deschalotte et François Test pour Sur les Docs.